C'est un homme qui s'est toujours voulu fils du peuple.
Ah, le peuple, oui.
Alors, est-ce que la plèbe, c'est le peuple ?
On pourrait polémiquer autour du sens du mot plèbe et de peuple.
Peuple, c'est extrêmement mobilisateur. Ça fait référence aux idéaux de la République. Quand on demande qu'est-ce que ça veut dire peuple à des acteurs du mouvement des universités populaires, ils répondent, eh bien, c'est pour tous. C'est ouvert à tous. Évidemment, c'est pas exactement la réalité.
Prénom ?
Michel.
Nom ?
Onfray.
Date de naissance ?
Le 1er janvier 1959, à Argentan, Orne. Ce département, c'est le paysage de son âme.
Famille ?
Père ouvrier, mère femme de ménage, il mettra toujours sa famille en avant, en tirant de la fierté.
Premières études ?
S'il a un motif de se plaindre de sa mère, c'est de l'avoir placée dans un établissement agricole tenu par des religieux qu'il a considérés comme des rustos. Orienté vers un CAP de fraiseur-tourneur, il refuse et se réinsère tant bien que mal en section littéraire.
Études supérieures ?
À Caen, Normandie. Il finit par un doctorat, mais il refusera la voie de l'université avec les contraintes qu'elle impose. Socrate n'était pas fonctionnaire. Il enseigne longtemps dans un lycée technologique catholique, au moins est-il en Normandie.
Quelles sont ses principales publications ?
Au compteur, il enregistre déjà en 2015 100 livres, avec toujours en exergue, pour chacun, une citation de Nietzsche. Ses plus grands succès, les volumes successifs du journal hédoniste et le traité d'athéologie.
Et sa vie publique ?
Sa présence à la télévision et dans les médias date de loin, mais pendant une douzaine d'années, il a réservé ce qu'il considérait comme le meilleur de sa vie publique à l'Université populaire de Caen, qu'il a fondée en 2002, mais qu'il a quittée définitivement en 2018.
Une reconversion ?
Surprenante pour nombre de ses admirateurs, mais prévisible pour certains de ses adversaires. Michel Onfray intervient maintenant dans sa propre télévision sur YouTube et dans une revue, Front populaire, qui s'adresse aux souverainistes, dans l'ordre ceux de droite, ensuite ceux de gauche. Le succès commercial a été rapide, l'issue politique est plus incertaine. Il assure pourtant qu'il n'est devenu ni rouge ni brun, mais qu'il est toujours tricolore.
France Inter, Intelligence Service, Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Le dernier Michel Onfray peut étonner par sa recherche d'une place sur l'échiquier politique, mais Onfray a toujours craint la fixité, qu'il y ait plusieurs Onfray n'est donc pas pour étonner. Aujourd'hui, nous n'allons nous occuper que du Michel Onfray, animateur de l'Université populaire de Caen, 2002, 2015, 2018. Mais avant, il y avait eu un Onfray plus centré sur lui-même et qui se définissait d'abord comme hédoniste. Il avait failli mourir d'un infarctus à 27 ans, il avait tiré de cette expérience l'inébranlable intention de jouir de la vie, et sa grande affaire n'était pas de bâtir des systèmes, il ne conçoit pas ainsi la philosophie, mais d'unir les contraires par le refus des certitudes. À la fin d'une vérité, il faut toujours envisager la vérité d'en face. Si on parle politique un instant, en 1992, il avait voté contre le traité de Maastricht, mais 10 ans plus tard, en 2002, il se sent encore assez lié à la gauche pour regretter l'élimination de Lionel Jospin au premier tour de la présidentielle. Et en tout cas, ce qu'il fait absolument réagir, c'est l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour. Au début de cette année-là, Pierre Bourdieu venait de mourir. Onfray avait apprécié son génie colérique quand il avait dénoncé la misère du monde et l'incurie des élites françaises. Inconsciemment, peut-être, il relève le flambeau en créant l'Université populaire de Caen.
J'ai reçu de la philosophie tellement qu'il y a un moment où on a envie de rendre, en étant le passeur, en disant voilà, ça existe, allez voir de ce côté-là. Eh bien, il faut le rendre. Et puis il y a d'autres raisons. J'en avais assez de l'éducation nationale parce que j'étais un peu en délicatesse avec la police de l'éducation nationale, je dirais, avec les surveillants, avec les directions, avec ma directrice en l'occurrence très précisément l'inspection. Enfin, j'avais du mal à supporter tout ça, quoi. L'idée que on fabrique des élèves dociles, obéissants, soumis, qu'on les massacre, qu'on se sert de la philosophie à l'envers de ce qu'on devrait faire. J'avais un peu assez de tout ça. Ça faisait 20 ans, j'ai 43 ans, 20 ans d'enseignement, ça va. Je me suis dit, on n'est pas tenu quand on a la chance que j'ai, c'est-à-dire de ne pas attendre son salaire de prof pour vivre. Moi, j'ai des droits d'auteur qui me permettent d'exister. Je me suis dit, bon, je faisais ça pour les... pour le plaisir de transmettre, transmettons, gardons le plaisir de la transmission, mais allons voir un autre public. Je fais des conférences depuis très longtemps, depuis que mes livres paraissent, et j'ai toujours des salles pleines, et je me dis, mais les gens sont toujours là, ils sont toujours présents, il y a un désir de philo, il y a un désir de questions, de débats, de... donc pourquoi pas tabler là-dessus? Et je me suis dit, si on a, si j'ai 20 personnes, ben ça suffira, quoi. Ben voilà, on est au-delà de 300, ça marche, les gens sont, me donnent un plaisir absolu, et j'ai l'impression, en faisant ça, de continuer de manière très égoïste à me faire plaisir en transmettant.
Comment ça se fait qu'il y a tant de gens qui s'intéressent à la philosophie? Et je pense que il y a plein de réponses, hein. Plus de temps, peut-être, l'allongement l'espérance de vie qui est plus longue. Donc, des gens qui sont à la retraite plus longtemps et qui se disent, on a le temps quand même de profiter de ça pour aller au-delà de l'immédiat intérêt du quotidien pratico-pratique. Et puis, je pense aussi que la chute des grands systèmes idéologiques, religieux, politiques, a peut-être créé un vide, mais un vide qui me paraît, moi, intéressant. Je suis optimiste par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au lieu de nous apporter des réponses toutes faites, eh bien, ce vide-là nous incite à nous dire, voyons, finalement... En quoi m'est-il permis de croire vers quoi est-ce que je veux m'orienter? Quel est l'intérêt de la vie, de vivre? Quel est le sens de tout ça? Voilà, donc beaucoup de gens se sont tournés vers la philosophie pour essayer de trouver ou d'avancer sur le chemin de ce genre de questionnement.
C'est Gilles Geneviève qu'on vient d'entendre. Il a été du petit noyau fondateur de 2002. Il était arrivé à un moment, toute philosophie est autobiographique, où il s'interrogeait sur le sens de sa vie. Au fond, il attendait... Onfray, instituteur, il voulait initier des dialogues philosophiques avec des enfants, bien avant la terminale. Ne naissons-nous pas tous philosophes?
Bon, j'étais instit depuis 20-25 ans, et je venais de découvrir, j'avais découvert 4 ans avant les pratiques de discussion philo avec les enfants, hein, donc je travaillais de cette façon-là en classe, et je me disais, bon, j'étais convaincu que c'était une démarche intéressante, passionnante, pour laquelle il fallait militer, pour que tout le monde la connaisse, et... Je découvre un jour un article de Michel Onfray dans Libération, si j'ai bonne mémoire, qui parle déjà, lui, de discussion philo avec les enfants. Donc je lui écris, on échange quelques courriers d'abord, puis quelques mails. Et puis, je vois quelques temps après qu'il fonde cette université populaire. Je dis, bravo, vraiment, vous allez dans le sens, on vous voyait à l'époque, vous allez dans le sens qui me semble un sens, enfin, votre action me semble tirer dans le même sens que la nôtre, dans les écoles, avec les discussions philo avec les enfants. Et je viendrai dans la foule des anonymes, assister à vos cours, vous avez tout mon soutien. Et il me dit, ne restez pas anonyme. Il me répond, ne restez pas anonyme, qu'est-ce que vous diriez d'un atelier de discussion philosophique avec des enfants dans le cadre de l'université populaire de Caen?
Oh. So quiet.
Moi, j'ai toujours pensé que la philosophie pour enfants, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire. Je reçois un jour un mail d'une jeune fille qui s'appelle Geneviève.
Voilà, c'était
Gilles
elle.
De son famille, et je lui dis, chère madame, et Gilles m'explique qu'évidemment, il fait ça depuis toujours, et que là, je dis, ah, extraordinaire, rencontrons-nous. Et puis on s'est rencontrés, j'étais déçu que ce soit pas un beau garçon barbu. Et puis c'est devenu une histoire d'amitié tout de suite, parce que dès que j'ai démarré, Gilles a été à mes côtés et qu'il est là depuis le début.
En fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Onfray aime les discussions philosophiques avec les enfants. Il dit que l'université sera autogérée. Son fonctionnement n'a pas nécessairement été très collégial, l'a été même de moins en moins. Il ne conçoit d'enseignement, on va l'entendre, que vertical. Un partenariat a été établi avec une firme de production discographique et avec France Culture, partenariat plus tard révisé à la baisse. Un des techniciens que France Culture dépêcha longtemps dans les salles qu'occupa successivement l'Université populaire de Caen était François Rivalan. Avec Gilles Geneviève, il se souvient très bien du cérémonial qui s'établissait.
Bonjour, merci d'être là. Nous continuons notre travail.
Avec le recul, quelle pourrait être votre vision, votre sentiment sur une certaine forme de mise en scène, Michel Onfray? la mise en scène, c'est-à-dire la petite table, la lumière, devant le public.
J'en pensais pas grand-chose. Et je me dis, est-ce que cette façon de faire, assis derrière une table, est-ce que c'est la seule? Ouais. Et moi, j'ai eu une expérience théâtrale aussi. Et je me dis qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, être debout, se bouger, etc. Et j'essaye de faire ça un peu en formation de gens qui se destinent à l'animation de discussions philosophiques. Je suis beaucoup plus mobile, je suis beaucoup moins statifié que je ne pouvais l'être à l'époque où j'ai commencé modestement à donner des conférences. Et peut-être que, Michel, c'est son style, voilà, le style un peu professoral, mais ça, c'est le statut. Mais un certain nombre de mes collègues, autres que Michel, ont aussi cette façon de s'adresser aux gens, donc très bien, c'est très bien.
Monsieur Lebrun, il existe de nombreuses universités populaires. Celle de Caen ne s'inscrit-elle pas dans un mouvement de longue durée?
Michel Onfray, y compris en parlant en professeur depuis une estrade devant qui veut venir, retrouve en effet une tradition, celle des premières universités populaires des dernières années du XIXe siècle. Souvenons-nous, la Troisième République naissante essuyait les tempêtes de l'affaire Dreyfus. Jean-Claude Richez, historien, entre autres, des universités populaires.
Le premier mouvement d'université populaire, c'est en gros à partir de 1898, lancé par un ouvrier typographe, Georges Deherme, dans un contexte bien précis, c'est celui de l'ouverture de l'affaire, où l'affaire devient une affaire publique. Une partie de l'opinion, disons, de gauche, de l'opinion ouvrière, mais aussi de l'opinion intellectuelle, trouve les passions se déchaînent et que les classes populaires ne s'investissent pas tellement dans le débat ou même soutiennent les adversaires de Dreyfus, voire participent à des manifestations antisémites et qu'il faut absolument réagir. Donc toute une série d'intellectuels, surtout parisiens, mais au-delà de Paris, surtout à la Sorbonne, vont se mobiliser pour aller éduquer le peuple, l'arracher à l'ignorance. On trouve des gens comme un historien comme Monod, il y a Peggy évidemment qui en première ligne, mais aussi Bergson et Halévy, et Daniel Halévy, qui va être aussi l'une des figures de ce mouvement d'éducation populaire. Donc c'est la convergence entre des ouvriers qui sont déjà engagés dans quelque part de l'éducation populaire, dans de l'éducation mutuelle, et des intellectuels qui se disent il faut qu'on arrache les ouvriers à l'ignorance.
Jamais aucune université populaire en France n'a demandé à Jean-Claude Richez de raconter l'histoire de l'ensemble des universités populaires. Il pourrait dire comment le mouvement s'est vite interrompu dès 1904. Les ouvriers qui faisaient alors le fond du public avaient du mal à suivre les cours. Les universitaires éprouvaient de la peine à rejoindre leurs préoccupations. Et une fois Dreyfus sorti d'affaire, ils commencèrent à se démobiliser, donnant aux ouvriers l'impression d'être abandonnés. Telle ou telle université populaire réussit à prolonger son existence, comme à Lille. D'autres sont nés ensuite, après la Première ou après la Deuxième Guerre. Mais un rebond, dont l'aventure de Caen tirera parti, se produit vraiment il y a maintenant 40 ans.
Il faudra attendre en fait les années 80 pour voir redécoller un mouvement national d'université populaire. En 83, il y a la fondation d'une association des universités populaires de France. Et à partir de cette date, le mouvement va être d'abord assez lent, mais s'accélérer, disons, dans les années 90, puisqu'on passe entre 88 et 2000 de 24 universités populaires fédérées à 71.
Et finalement, l'université de Michel Onfray et le réseau qu'elle a constitué vient après un renouveau.
Oui, absolument, après un premier renouveau qui est porté par l'université populaire de Mulhouse. Et Onfray arrive dans une conjoncture bien précise, c'est-à-dire que derrière, il y a effectivement cette relance des universités populaires, et puis la conjoncture de connue, 2002, il lance son université populaire dans le contexte de l'échec de la gauche en 2002 et de l'affrontement entre Chirac et Le Pen. Et avec des formules d'ailleurs extrêmement violentes de Onfray en ce qui concerne l'ignorance du peuple, dont la conscience, toute conscience est détruite par les médias. Donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, c'est exactement, et il mobilise un imaginaire puissant, celui des universités populaires. Et Onfray, dans une conjoncture totalement similaire à celle de 98, dit « mais il faut revenir aux universités populaires », il mobilise l'imaginaire de ces premières universités populaires en édictant aussi des règles, c'est-à-dire la règle d'Onfray, c'est gratuité absolue. Le fait qu'on parle, que ce soit université populaire, a une certaine efficace, puisque la plupart des universités qui se disent populaires développent des programmes spécifiques en direction des plus exclus, en particulier autour de français langue étrangère, alphabétisation. Donc quand on dit populaire, ça a un effet magique et il y a des étoiles qui brillent dans les yeux. Quelque part, on dit toujours c'est la fin des grands récits, il n'y a qu'un un récit qui n'est pas menacé, c'est celui justement de l'éducation populaire, de l'instruction pour tous, de l'ouverture à la culture à tous.
Inter. Intelligence, service.
Monsieur Lebrun, pourriez-vous nous préciser comment se déroulait une journée à l'Université populaire de Caen ?
Le principe, c'était la gratuité. Alors que dans d'autres universités populaires, comme celle de Mulhouse, qui a été citée tout à l'heure, le droit d'inscription pouvait être élevé. Alors, faute de financement propre, l'université populaire de Michel Onfray se trouvait tributaire d'institutions qui lui prêtaient des salles. Municipalité, université, théâtre. C'était une suggestion qu'on dissimulait derrière une formule. L'université populaire est une actrice du territoire. Des cours étaient organisés, mais aussi des ateliers. On sait que le cours d'Onfray était connu assez défavorablement des écoles de psychanalyse instituées, mais un atelier de psychanalyse était possible autour de Myriam Illouz. Le point d'orgue de la semaine, c'était évidemment l'enseignement qui délivrait hebdomadairement Michel Onfray entre 18 et 20 heures, mais au même instant, Gilles Geneviève, l'instituteur, animait son atelier d'enfant aux méthodes moins vertical, même carrément horizontal.
Et c'est comme ça maintenant que je commence les ateliers. Donnez-moi des mots qui vous semblent importants. Alors nom, adjectif, verbe. Et à partir de ces mots-là, on essaye de poser, dans un deuxième temps de la démarche, une question sur un mode impersonnel. Voilà. Et donc on a un corpus de questions, et on choisit une de ces questions au moyen d'un mode. Ça n'est jamais moi qui dis « oui, voilà, on va choisir telle ou telle question ». Et au fil des ateliers, j'ai vu des élèves qui étaient vraiment, vraiment très à l'aise avec l'oral, avec le discours, qui étaient à la fois pointus sur l'argumentation concernant la question du jour, mais qui étaient à la fois capables d'un regard métadiscursif, c'est-à-dire « ah, bah, dis, attends, t'as changé d'avis tout à l'heure, oui, mais je n'ai pas bien compris, est-ce que tu pourrais préciser, etc. » Et une de ces élèves, qui m'a particulièrement frappé, j'en ai parlé à bout de deux, trois séances, elle m'a dit « mais dis donc, celle-là, elle a l'air vraiment performante, elle percute, elle est... » Et même, tu sais, elle va aller en SECPA. C'est-à-dire que selon les critères habituels de l'école, cet élève-là était destiné à une filière pour les enfants les plus en difficulté, alors que là, dans ces activités-là, de mon point de vue, elle était extrêmement brillante. Hein. Comme quoi l'école met en avant seulement un certain nombre d'aptitudes et pas toutes. Et qui serait intéressant, pour ceux qui veulent, hein, d'utiliser les pratiques de discussion philosophique, justement, pour modifier le regard qu'on peut porter sur certains enfants. Et donc, ce jour-là, la question qui avait été choisie par les enfants, c'est pourquoi fait-on du mal aux animaux, ou pourquoi Alors vous allez, je crois, donner quelques extraits hein, de la cassette que j'ai enregistrée ce jour-là avec les moyens du bord.
J'ai pas bien compris. Tu veux dire, prendre un animal sauvage dans l'habitation des gens, c'est ça qui lui fait du mal?
Ce que je veux dire, c'est, par exemple, quand elle est dans la nature, c'est que là, on prend de la nature et ensuite on va le dresser chez nous. Ben, le mal, c'est de le prendre de sa liberté.
Ça peut être aussi le mal physiquement et mentalement, comme physiquement taper quelqu'un et mentalement le traiter avec la parole.
Ah, des chasseurs qui tuent les animaux pour rien, ou des fois ils prennent la peau pour les vendre.
Je voudrais m'arrêter là-dessus, sur ce que tu as dit, on chasse les animaux pour rien. C'est ça que tu as dit, hein? Est-ce que quelquefois on peut chasser pour quelque chose? Enfin, je te pose la question à toi, mais à tous les autres aussi. Dans ce cas-là, si on chasse pour quelque chose, est-ce que c'est mal quand même?
Si on peut faire mal aux animaux, comme les vaches, on les mange, comme les chevaux, les poules, les coqs, enfin tous les animaux qu'on mange, mais aussi ça fait du mal, mais aussi ça nous fait du bien.
C'est pas mal parce que quand on chasse les animaux, bah, c'est pour faire des fourrures, des manteaux, aussi pour manger quand on tue les sangliers, tout ça. Puis ça empêche de... Aussi, qu'est-ce qui est mal, c'est que ça empêche l'évolution des animaux.
Le modeste atelier des enfants pouvait être enregistré avec les moyens du bord, mais dans la grande salle. On a vu, il y a un instant, François Rivalon, le technicien de France Culture, installer la lampe de Michel Onfray sur la table. Progressivement, le public peut prendre place.
Oui, alors, moi, en fait, j'ai un souvenir de... lorsque la fin des essais se faisait, donc l'émission, vraiment les préparations techniques, etc., lorsque les... Bon, il y avait une heure limite pour que les portes s'ouvrent.
Oui.
Et alors, moi, ce qui me surprenait à chaque fois, c'était lorsqu'il y avait le feu vert, les portes s'ouvraient. D'un seul coup, j'avais les gens qui reprenaient les mêmes places que moi. Forcément, j'avais la même place. Mmh. Mais je voyais en face de moi les gens qui reprenaient les mêmes places.
Oui.
Beaucoup de gens de Paris qui venaient avec le train pour assister aux conférences. Et donc, il y a ce souvenir. Et puis aussi, le public... S'il fallait donner une représentation du public, pour moi, ce sont des gens simples et cultivés. Mmh. Voilà. Les catégories d'âge, ils devaient avoir 60, 70 ans. J'ai rarement vu des jeunes.
Hein. Oui, mais c'est
une catégorie de population de gens lettrés. Ce ne sont pas forcément des universitaires. Ce sont des gens qui ont des métiers voilà, et qui s'instruisent. S'il fallait donner une définition complète du type de population, ce sont des jeunes retraités et aussi cette France du travail. Les gens, les commerçants, quand je dis la France du travail, des gens qui se lèvent tôt, je ne vais pas reprendre cette expression, mais on sent que c'est des gens qui ont beaucoup travaillé. Et là, ils sont à la retraite, ils ont le temps de poursuivre ce qu'ils n'ont jamais eu le temps de faire avant, c'est-à-dire s'enrichir.
Ce 22 mai 2007, dans le tramway qui mène de Caen vers le centre dramatique d'Hérouville-Saint-Clair, certains ont un panier, une quiche encore chaude couverte d'un papier aluminium sur les genoux. C'est à cela que l'on reconnaît ceux qui vont assister au cours de Michel Onfray, qui se terminera cette fois par un pique-nique, puisque c'est le dernier de l'année. Les dames s'appellent souvent Josiane, ou Colette. Un homme, en chaise roulante, venu d'Argentan, dit « Avant, quand je voyais un mec qui faisait la manche, j'avais envie de l'engueuler, parce qu'il ne faisait rien de ses deux jambes. Plus maintenant. » Il est vrai qu'un cours de philosophie d'Onfray a quelque chose d'une homélie laïque. Passé les questions et les applaudissements, la séance est levée. Certains vont le voir, comme pour étirer l'instant. Lui s'accroupit au bord de la Seine, écoute et répond posément aux interrogations de ses visages levés vers lui. Il se méfie de ce genre de prolongation. Flotte sur cette soirée un doux parfum 70s où se détache la silhouette de l'instituteur en retraite, tandis que les jeunes sont plutôt minoritaires. Le pique-nique commence, on déchire l'alu, on ouvre Tupperware et bouteilles, on partage. Très sollicité, on fraye, vaque de table en table. Le centre dramatique qui offre ses murs à l'université populaire est l'une des deux dernières salles de France à fonctionner encore comme une coopérative ouvrière de production. Une fois les restes ramassés, les auditeurs d'Onfray s'en vont. Ils achèteront bientôt le CD du cours édité par France Culture, l'écouteront dans la voiture, avec la vague impression que la culture n'est plus réservée aux autres. Judith Pérignon, Revue 21, 2008.
Enregistré par France Culture, édité par Frémo, qui se prévaut d'avoir vendu quelqu'un million de CD des cours de Michel Onfray. L'âge, le passé des participants, qui ne sont donc pas des prolétaires comme au temps des premières universités de l'affaire Dreyfus, ne leur font pas demander à Onfray de désigner des issues politiques. La transformation qui est cherchée est une transformation intellectuelle, personnelle, plutôt qu'une transformation sociale. Transformation sociale, le mot est préféré à celui de révolution. Admirateur de sa compatriote normande, Charlotte Corday, qui a assassiné Marat, Onfray n'aime guère la Révolution française. Selon lui, l'œuvre de gens qui en sont morts et qui ont laissé derrière eux le centralisme jacobin et le ressentiment. Il n'aime pas non plus le mot anarchisme, qui sent son terrorisme. Là encore, l'utilisation dans le vocabulaire du mot « libertaire » permet une euphémisation. Il n'élude pas dans ses cours de contre-histoire de la philosophie l'époque contemporaine, mais il tient à plonger plus profond dans le temps, jusqu'à l'Antiquité, telle que le lui a enseigné son maître, Lucien Gerfagnon. C'était une époque où les philosophes, plutôt que de forger des concepts qui allaient servir à s'entretuer, tentaient surtout de vivre conformément à leurs principes, tels le grand Épicure.
Bonsoir. Bonsoir et merci pour votre fidélité. Petit moment bibliographique. À l'évidence, vous devriez être muni dès à présent de votre Diogène Laërce. C'est dans ce fabuleux ouvrage que je sors tous les détails anecdotiques qui nous permettent de parvenir à l'essentiel. Le livre qui est consacré à Épicure démarre sur ces reproches qui lui sont faits. Vous trouverez sur la mauvaise réputation et sur la philosophie d'Épicure tout ce qu'on peut savoir dans le livre de Diogène Laërce. D'ailleurs, les trois lettres dont je vous parlais, Pitoclès, enfin dans l'ordre Hérodote, Pitoclès et Ménécée, sont des lettres que vous avez là. Elles sont sauvées grâce à Diogène Laërce. Et ce sont des lettres qu'Épicure envoyait à ses disciples. Pitoclès, Hérodote, Ménécée étaient des disciples épicuriens, qui étaient plus ou moins des patrons d'écoles épicuriennes qui existaient déjà en Asie mineure du vivant d'Épicure. C'était des correspondances aux patrons d'école. Je voudrais envisager ce soir avec vous la question de la philosophie cochonne. Est-ce que Épicure était un philosophe cochon ? Puisque le cochon est un animal emblématique de l'épicurisme et que ça ne peut pas ne pas faire sens que de voir apparaître ce bestiaire singulier du pourceau d'Épicure. Fait à Bosco Reale, il y a un petit gobelet épicurien, enfin qu'on présente comme un gobelet épicurien, mon hypothèse est que c'est plutôt un gobelet stoïcien, où on voit des individus qui sont Zénon, philosophe stoïcien, et puis Épicure, donc l'emblème de l'épicurisme, qui sont en squelette et qui sont en train de désigner un gâteau. Est-ce qu'il faut manger le gâteau, ne pas manger le gâteau, résister au désir, se faire plaisir? Et il y a un petit cochon qui grimpe sur la table, qui met le museau en direction du gâteau et qui fait la démonstration que de Timon, contemporain d'Épicure, jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, on parle du petit cochon et même les épicuriens renvoient au porc. Ce sont donc des individus qui reprennent en compte cette critique qu'on peut leur faire. On va essayer de voir pourquoi les épicuriens sont associés au porc.
Vaut mieux être associé au porc qu'au pouvoir. Ça, c'est le grand péché pour les philosophes. Alors vous me direz, mais ce sont des détails anecdotiques, il reste pas beaucoup de traces directes d'Épicure. On se sert de ce qu'on a. Et, vous avez entendu cette phrase essentielle dans la méthode de Michel Onfray, les détails anecdotiques font sens, qui permettent d'aller à l'essentiel. Alors le cours se déroule, dit parfaitement, sans hésitation, dans une langue très pure, et puis suivent les questions.
Je voudrais savoir, si vous pouviez nous dire ce qui vous a amené à revisiter la philosophie hédoniste.
Alors d'après ce que j'ai compris, l'hédonisme c'est seulement la recherche du plaisir sans la conscience, et le démonisme c'est la recherche du plaisir avec la conscience, on a conscience de son plaisir et donc on peut être heureux, le bonheur. Et je me demandais si le démonisme était incompatible avec le bonheur ou pas.
Bonsoir monsieur. Il n'y a vraiment aucune place pour Dieu dans l'hédonisme, je veux dire. Est-ce qu'on ne peut pas croire en Dieu sans faire partie d'une religion? Est-ce qu'on ne peut pas croire? La religion, c'est une fabrication, alors que Dieu, c'est... ça ne l'est pas.
Pourquoi avez-vous besoin de cette hypothèse?
Je ne sais pas.
Mais si, non, mais c'est vous qui avez la réponse. Moi, je ne peux pas vous la donner. Je vous dis, qu'est-ce que ça vous sert à quoi, Dieu? Je ne suis pas contre, hein, mais pensons ensemble. Vous me dites, j'en ai besoin, il est là. Bon, alors, ça vous sert à quoi?
À m'élever...
Vers lui?
Oui.
Oui.
C'est difficile de rester au niveau...
Définissez-moi.
Pour certaines personnes.
Dites-moi qui est votre Dieu, à quoi il ressemble.
Ah non, ça je peux pas.
Donc, si vous avez un Dieu, si le Dieu qui est le vôtre, il vous fait vous prosterner ou vous mettre à genoux, alors je n'aime pas votre Dieu. Je crois que tout ce qui fait qu'on invite les gens à se mettre à genoux n'est jamais défendable. Si en revanche c'est un Dieu qui vous permet de mettre du sens là où il y a de l'insensé a priori, pourquoi pas? Mais pourquoi nommer ça Dieu? Moi je préfère qu'on nomme ça une force, qu'on nomme ça une énergie, qu'on nomme ça une puissance, qu'on nomme ça je sais pas quoi, enfin une vitalité, enfin ce que vous voudrez, mais un mot qui ne soit pas aussi chargé que le mot de Dieu, le nom de Dieu.
Moi je pose une question, pourquoi taper systématiquement sur les chrétiens? Moi pas de problème, je suis pas chrétien, je suis athée. Quand ceux qui à mon avis sont les plus grands adversaires, les plus grands destructeurs de l'hédonisme, c'est quand même, on le voit en 68, c'est quand même la bourgeoisie et le système capitaliste qui est lui-même un matérialisme. Et c'est là que j'ai un peu du mal à comprendre. C'est tout.
Oh, mais Onfray ne tape pas que sur les chrétiens. Sa méthode, le détail anecdotique qui permet d'aller à l'essentiel, use plus souvent qu'à son tour de ce qu'on pourrait appeler le biographisme. La vie de Freud, la vie de Sartre démentirait leur œuvre. Le fondateur de la psychanalyse, pour reprendre un exemple qui a défrayé la chronique, aurait été homophobe, il aurait eu des complaisances pour les dictateurs, etc., etc. En conséquence, il serait disqualifié. Néanmoins, Jésus, la clé de voûte de ce qu'on ferait nomme le judéo-christianisme, fait l'objet d'un traitement, au départ en tout cas, assez particulier. La démythisation peut aller si loin qu'à un certain moment, on ferait a pu dire que Jésus n'avait pas existé. Alors on imagine le tohu-bohu qu'ont pu provoquer les propos de l'entrepreneur de démolition chez les professionnels des sciences historiques. Elisabeth Roudidesco pour la psychanalyse, Jean-Marie Salamito pour les débuts du christianisme. Tohu-bohu qui n'est parvenu qu'atténuer et rarement dans l'enceinte de l'université populaire.
Les auteurs que vous citez sont complètement dépassés. Guimbert est complètement dépassé, Alfaric est complètement dépassé, plus personne n'en parle. Alors évidemment, Prieur et Mordillat, c'est vrai, c'est récent, ça a eu un certain succès.
Continuez. Mais je suis très heureux, monsieur Dumas, de vous voir apparaître à la 26e séance de l'Université Populaire, vous qui avez été mon professeur, pour défendre Jésus. Donc, à l'évidence, qu'il y ait eu des gens qui, comme Alfaric, aient pu défendre ces thèses-là et qu'on puisse les trouver dépassés, mais dépassés par qui ou par quoi? Oui, les recherches sont la plupart du temps faites par les protestants allemands qui sur j'avais suivi votre cours, hein, j'étais un gentil élève et un gentil étudiant, et je me souviens de vos cours sur Karl Barth, sur Dietrich Bonhoeffer, et je me souviens très bien que vous défendiez des positions inverses, mais on peut ne pas avoir ces positions-là quand on ne croit pas à l'existence de Jésus et que on aborde ces textes-là, non pas en croyant qui cherche des raisons à sa foi, mais en philosophe qui cherche à réfléchir à partir de textes qu'on peut lire comme des textes historiques. Donc je ne suis pas, on n'est pas nombreux, je dirais, à dire que l'existence de Jésus n'est pas avérée. On peut le dire tout de même, c'est pas indéfendable comme thèse.
À la même époque, Lucien Gerfagnon lui écrit, mais le christianisme, j'aurais à vous dire là-dessus, on ne peut pas l'expédier d'un trait de plume parce qu'il est multiforme. Jésus, mais Torquemada, François d'Assise est à l'errant, le métro à 17h. Quant au judéo-christianisme, c'est une construction idéologique, anti-historique, dans laquelle les juifs ne se sont jamais reconnus et les chrétiens rarement. On a entendu Jean-Louis Dumas, le professeur devenu contradicteur. Je citais Gerfagnon, qui n'a jamais désespéré de son élève. Ce sont des maîtres de l'université de Caen. La Normandie, toujours. On ne peut pas refuser à Onfray la qualité de voyageur, mais un désir de Normandie l'habite toujours. Pour le satisfaire, ce choix qui n'est pas innocent, Bourvil, fils de petit paysan normand.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient. Non, 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 on n'irait pas plus loin.
Intelligence, service.
En Normandie, dans l'Orne, le pays de son âme, un monastère cistercien, la Trappe de Soligny. Dans ce monastère, Michel Onfray se souvient de sa compagne, morte après 37 ans de vie commune, Marie-Claude. La Trappe incite toujours à réfléchir à la mort. Il y est venu avec sous le bras la vie de Rancé, de Chateaubriand. Il en rapporte lui-même un livre qui est passé inaperçu. Il y voit un monastère qui est peut-être en train de s'effacer. La démographie, je cite Onfray, cette science interdite dans l'espace médiatique contemporain, nous dit que la France blanche et catholique va vers sa disparition. En conséquence, il n'y a plus de sens à combattre le christianisme qui irait au tombeau, et Onfray s'émeut de voir dans le cœur dépeuplé de la Trappe si peu de moines, parfois si vieux.
Au petit matin, voyant arriver à l'office ces hommes de tous les âges, un jeune dansant comme s'il marchait déjà dans le ciel, un très vieux qui tousse, ravale son crachat, traîne ses sandalettes, un lunaire qui arrive en retard alors que l'office a commencé et semble ne pas s'en trouver affecté. Un groupe de corps voûtés et pénétrés. Un barbu, coïncidant avec l'idée qu'on se fait du moine. Y en a-t-il là qui ne croit plus, qui ne croit pas, qui croit mal, qui croit à côté, qui doute? À quoi ressemble la vieille âme de l'ancien tout couturé, tellement fatigué qu'il reste assis quand ses frères se lèvent, se rassoient, se relèvent? Il est loin de moi, séparé par une clôture ontologique que rien ne matérialise, mais je vois son poil rare sur sa tête à la peau abîmée. Sa peau est parcheminée. Elle irradie un blanc que j'ai plusieurs fois connu sur des visages aimés peu de temps avant qu'il ne passe de l'autre côté de la lumière. Il est tassé, sur la stalle, perdu dans les plis du tissu blanc qui l'enveloppe déjà comme un linceul.
Est-ce qu'à partir du milieu des années 2010, Michel Onfray commence à trouver le monde des universités populaires trop étroit pour lui, Monsieur Lebrun?
Ben Onfray, lui aussi, se sent couturé de cicatrices. Il les expose à qui veut bien les considérer. Les relations avec les hébergeurs se sont tendues. Un moment, on s'est transplanté à Deauville, un autre monde où la greffe a mal pris. France Culture a ramené la voilure. Le départ d'Onfray se fera sans adieu. On pense à la fin des premières universités populaires de l'époque Dreyfus en 1904. Alain, encore un philosophe normand, l'a bien peint. Les auditeurs, dit-il, avaient pris les professeurs comme on prend des outils, en rude amitié. Et puis, les professeurs avaient abandonné le champ, préférant d'autres tâches. En 1904, c'était tous les professeurs qui s'étaient éloignés sur la pointe des pieds après peu d'années. Aujourd'hui, le mouvement est ancré par des décennies d'expérience. Les universités populaires qui sont légion, une petite minorité seulement se reconnaissait dans le modèle de Caen, continue. Et Caen ne désespère pas de se relever. De nouveau, Gilles Geneviève, l'un des fondateurs.
Je pense que le pire de nos maux actuellement, c'est justement le goût du pouvoir. Et j'essaye de me battre de toutes les façons que je peux contre cela. Je crois que tous nos maux viennent de là, de cet appétit pour le pouvoir. Et effectivement, il y a, je pense, et je crois que c'est démontré depuis de nombreuses années, depuis Platon, je pense que le pouvoir ne corrompt pas, mais qu'il attire à lui des gens qui ont envie de cette reconnaissance-là, de cette posture dominante, cette posture surplombante. Et il y a, hélas, beaucoup d'enseignants, peut-être la majorité, hein, voilà, qui ont aussi ce goût-là et qui ne sont devenus enseignants que par goût du pouvoir. Et moi, je vise l'exact inverse. C'est-à-dire que je vise mon effacement le plus total. Michel nous a dit un jour qu'il partait, enfin il nous l'a dit, il nous a envoyé un texto, en disant, voilà, je quitte l'université populaire, en gros, prends qui veut. Et puis, on s'est dit, on va prendre, nous, parce que, c'est vrai, d'abord, on avait un certain nombre d'entre nous envie de continuer, et puis le public semblait aussi avoir envie de continuer, et moi, voilà, on a lu dans la presse qu'il donnait les clés de la chose à l'un d'entre nous, un des vieux de la vieille comme moi, un des Gérard Poulouin, hein, qui était présent dès le départ. Et on s'est dit, voilà, Michel évolue, et c'est bien d'évoluer. On ne peut pas vivre une vie sans évoluer. Toutes les choses sont... Moi, je suis un peu bouddhiste. Hein. Il y a une impermanence dans toutes les entreprises humaines. Voilà, il y a eu l'université populaire. Mais j'ai toujours été comme ça. Hein. Moi, c'est le cycle des renaissances. Hein.
Donc, mais ça veut dire que vous ne pouvez plus continuer le projet.
Mais si, on continue. Hein. Voilà, c'est pas la quantité qui fait la qualité, a priori. Même si c'est bien que 800 personnes viennent écouter. Mais on continue.
Maintenant que se dessine un nouvel Onfray, Gilles Geneviève pourrait reprendre une citation de l'Onfray ancien. « Quand peu parler s'accompagne de bien parler, le verbe est un trésor, et le silence aussi, puisqu'il le rend possible. » Enfin, Michel Onfray n'a choisi ni l'effacement ni le silence, et ses interventions sont maintenant encore plus personnalisées. Sa télévision sur YouTube s'appelle Onfray Télé. Ses lunettes carrées sont devenues un logo, et la revue qu'il vient de créer porte en surtitre La revue de Michel Onfray. Jusqu'ici, par définition, les revues étaient pourtant des collectifs. Celles-ci, Front Populaire, ne recherche pas de collaborateurs parmi la soldatesque maastrichtienne, je cite toujours. Onfray date en effet de l'adoption du traité de Maastricht, contre laquelle il avait voté en 1992, le début de la fin de la France.
J'ai créé l'Université Populaire en 2002 parce que Jean-Marie Le Pen venait d'arriver au second tour des présidentielles et qu'il me semblait que le rôle du philosophe n'était pas de se contenter de signer des pétitions, de dire qu'il fallait que le fascisme ne passe pas et voter Jacques Chirac dans la foulée, mais qu'il fallait agir, faire des choses. Et donc, je pense qu'il faut créer des médias libres, indépendants et autonomes. Les médias aujourd'hui coûtent beaucoup d'argent. Ils sont détenus par des gens qui disposent d'une idéologie, c'est l'idéologie de l'Europe libérale, l'euro, l'Europe, l'argent qui fait la loi, enfin on connaît leur logique. Et effectivement, si on est dans cette logique, on est invité et on a le temps de développer le message idéologique. Si on n'est pas dans cette idéologie-là, on est invité mais pour se faire frapper. On se fait insulter, on se fait mépriser, traiter de fasciste, de nazi, de pétiniste, on fait le jeu du Front National, on est un extrémiste de droite, où on défend des thèses nauséabondes, des rances et ce genre de choses. Et on passe son temps à devoir rendre des comptes à des gens qui nous méprisent, qui vont chercher une phrase dans une sortie de son contexte. Donc c'est parce que j'ai connu ça de l'intérieur, que j'ai fait aussi l'objet d'un certain nombre de campagnes de dénigrement un peu systématiques, que j'ai estimé que on devait pouvoir créer un média libre, indépendant et autonome où on peut développer des pensées, inviter éventuellement des individus sans les insulter, sans les mépriser, sans s'en servir de punching ball, justement pour pouvoir dire qu'on reprend en main, de façon libertaire et non libérale, des informations qu'on a l'intention de donner.
Onfray considère que le seul clivage qui compte aujourd'hui est celui de l'adhésion ou non à l'Union européenne. Comment, dit-il, l'Europe pourrait-elle se construire alors que ses fondations s'effondrent ? Il a lu naguère Spengler, qui a théorisé l'idée des cycles de civilisation. On en saurait, selon lui, au moment de la relève du judéo-christianisme par un islam déterritorialisé. La revue de Michel Onfray s'appelle Front populaire. Ça peut laisser entendre qu'il reste à gauche. Mais les souverainistes de gauche qui acceptent encore de le compter parmi les leurs le préviennent, à commencer par Jean-Pierre Chevènement. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, l'islam n'est pas un ennemi, il est lui aussi malade. En revanche, des responsables des droites extrêmes, persuadés des insuffisances de Marine Le Pen, sont à la recherche de nouvelles têtes. Si Front Populaire est autre chose qu'un phénomène de librairie, et qu'à la différence de l'université populaire, il cherche un débouché politique, c'est à droite qu'il le trouvera. À moins que Michel Onfray ne reste fidèle à sa prévision, mourir debout et avec élégance. Remerciements à Gilles Geneviève, Jean-Claude Richesse, François Rivalan, Jean-Damien Barbin pour les lectures, la prise de son Loïc Frapsos, en studio Kevin Pelot. La préparation de ce documentaire, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard. La réalisation, Audrey Ripouille.